couverture.
Tu fais partie des 9 Français sur 10 qui lisent leur prospectus.
Alors justement, généralement, je les lis.
En tout cas, c'est ce qu'ils mettent dans ce papier.
Je ne les lis pas. Mais là, ça m'a quand même attiré l'œil un petit peu. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est un gros document vert, donc en effet, avec un petit chien. C'est le petit chien, en fait, qui m'a attiré l'œil. Qui tient mignon, dans sa bouche un document qu'il tend à son maître, nous, en l'occurrence. Et ce document, c'est comment vivrait-on dans un monde sans amour et zéro papier? Qu'est-ce que c'est que ça, je me demande.
Bah c'est vrai que la première impression quand on voit ce prospectus, c'est ça interpelle direct, parce qu'on se demande vraiment ce que c'est.
Mm. En fait. Et en bas de cette première page, il y a le petit sigle, logo, mot d'ordre. J'aime mon prospectus. Alors du coup là, j'étais quand même sérieusement interpellée et un petit peu remontée parce que je me dis qu'est-ce que c'est que ça qu'il est en train de me dire. Et à l'intérieur, encore une jolie feuille verte et voilà, donc tout un tas de pas grand-chose finalement, mais comme si ils vont mettre, comme ils disent sur la couverture, ils vont finir avec les idées reçues. Comme quoi la pub est mauvaise, comme quoi la pub fait gaspiller du papier. Et puis, ils vont raconter que, curieusement, le papier nous aide à diminuer les CO2 parce que la filière bois serait responsable d'absorber plus de 70 millions de tonnes de CO2 par an, soit environ 13% des émissions annuelles du gaz à effet de serre. Comme si, en effet, plus on a de prospectus, plus ça va arranger ce problème. Bon, c'est présenté d'une façon, comment dire, comme si ce sont les réponses définitives à des problèmes. Et en effet, après, ça donc, nous amène même vers la deuxième page.
J'ai un truc. Dans un monde sans papier, il y aurait moins de forêts. Donc.
Voilà. Ouais. Donc, en effet...
Parce que c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de ce prospectus? Parce que c'est quoi le problème avec le prospectus?
Parce que j'ai un petit peu recherché quand même. Ce prospectus, je pense qu'il
était. C'est bien les prospectus.
C'était une réponse en fait à un phénomène qui commençait à agacer toutes les personnes qui sont responsables de créer des prospectus et de vivre là-dessus et de faire de leur fric, etc. Il y avait eu donc une célèbre annonce de la part de certaines enseignes, Leclerc notamment, qu'ils allaient arrêter de faire des prospectus et qu'ils allaient faire leur pub autrement, donc plus proprement, sans papier, etc. Ça avait vraiment agacé le OMS, notamment ce propre prospectus dont je vous parle. C'est créé par l'Observatoire du Hors Média. Et je suis allée voir leur site, et en effet, là-dessus,
ils ont un site
assez remonté par toutes ces écologistes qui disent le papier, les prospectus dans la boîte aux lettres, c'est très très mauvais.
Ah, parce qu'ils ont un site internet, j'aime mon prospectus.com, voilà. Ou quelque chose comme ça, en fait, en tapant.
On peut aller voir le site www.monprospectus.fr. Qui va
ils vont être contents, ils vont avoir plein de connexions aujourd'hui.
Voilà.
Ils vont se dire que la campagne va très bien
faire de la pub. Si vous n'étiez pas parmi les 13 millions de personnes qui ont reçu ce document dans votre boîte aux lettres, vous pouvez aller voir le document en version PDF.
Ne l'imprimez pas.
Parce que moi, là, il y a quand même des arguments qui sont sortis sur le prospectus qui me font quand même pas mal marrer, en fait. Et je sais qu'il y a Fondation, il y a la FNE là qui a
France Nature
Environnement,
voilà,
qui a réagi justement vis-à-vis des arguments qui étaient indiqués là-dessus, parce qu'en fait il y a plusieurs trucs qu'il y a, notamment quand on lit le document, quand on lit prospectus, on a l'impression que produire du prospectus c'est écologique, puisqu'en fait on produit de la pâte à papier, donc on gère la forêt, et donc si la forêt est gérée, elle progresse, etc. Et Fondation, la FNE, indiquait effectivement, bon, c'est bien beau de dire ça, mais ça ne tient pas compte effectivement de tout ce qui est l'utilisation des adjuvants chimiques, les encres. Parce qu'en plus, on a regardé, c'est Clément qui a fait remarquer ça, c'est que même le prospectus, il n'y a même pas d'encre végétale en fait dedans. Si on aurait pu faire ça, ça aurait évité quand on les critique.
C'est même pas si c'est du papier recyclé.
Voilà, ils indiquent juste que 50% du papier recyclé en général.
Ils voudraient quand même, parce
qu'à
la dernière page, il y a la fameuse quiz « J'aime mon prospectus ». Et la première question, c'est une question piège, évidemment, pour faire ce prospectus en 13 millions d'exemplaires, combien d'arbres aurait-il fallu abattre? 800, 125 ou 0? Et c'est quoi la réponse? Bon, ils prétendent que la réponse est 0. parce que ce papier aurait été géré avec, aurait été produit avec déjà du papier recyclé et une partie des chutes du bois, de l'activité de siège, etc., soit du bois, enfin voilà. En fait, je pense que leur réponse zéro est finalement faux, parce que pour récupérer du siège de bois...
Bon, parce qu'en fait, ils considèrent que...
Juste donc, peut-être qu'on aurait pu faire autre chose de ce papier plutôt qu'un prospectus, quoi.
Oui, et puis en plus, là, ce qu'ils considèrent en fait dans le bilan zéro du bois, c'est-à-dire que le fait que tu fasses, t'élèves un arbre, donc il capte du CO2 qui va être utilisé, mais qui va repousser en fait. Et donc on considère que le bois a un cycle zéro, mais en fait ça s'intègre pas toute la partie dépenses énergétiques en fait qu'il faut justement pour produire ce papier hors de la matière bois, quoi.
Et il faut quand même dire que la plupart du papier, une bonne partie du papier n'est pas recyclé, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui s'occupe soigneusement de la mettre à recycler. Pareil qu'il y a quand même un seul papier sur deux est recyclé. Donc le fait d'avoir produit 13 millions d'exemplaires, bon, il y a déjà 6 millions, etc., de papiers qui ont... Déjà, moi, dans ma boîte aux lettres, j'en ai trouvé un. Tout de suite, je me suis dit, tiens, il doit y en avoir d'autres, je vais en ramasser d'autres pour montrer aux copains. Et j'en ai tout de suite trouvé d'autres dans la poubelle qui étaient mises par mes voisins qui ne les ont peut-être même pas lues.
Ouais. Non, sur le bilan CO2, ça me rappelait le bilan CO2 dont on parlait de la filière nucléaire la dernière fois. Et pareil, c'est par l'industrie, c'est externalisé. Par exemple, l'usine électrique à base de charbon au Niger, qui est complètement exclue du cycle de raisonnement d'Areva. Enfin, voilà.
Parce que là, par exemple, dans le prospectus, c'est marqué, le papier est un des rares produits à la fois naturel, renouvelable, recyclable, non toxique et biodégradable, ce qui nous fait croire que c'est tout bon, mais... comme tu disais, il y a aussi tous les procédés énergivores et qui sont en effet toxiques, les encres.
Et puis en plus, là, ce qui se passe, c'est qu'ils font l'amalgame systématiquement. C'est-à-dire, au début, ils parlent d'un prospectus et puis là, ils te parlent du papier. Donc effectivement, le papier est un produit dans une certaine mesure qui est recyclé, qui peut être naturel puisqu'il vient du bois. Mais en fait, il y a quand même, il détache à chaque fois, il parle du bienfait du papier pour valoriser le mauvais côté du prospectus. Et il y a quand même, si Khaled était là, il aurait bondi à la dernière, à la cinquième ligne.
Oui,
en fait, c'est marqué « Le prospectus contribue-t-il à votre pouvoir d'achat ?» La réponse est oui. Vous êtes 9 personnes sur 10 à lire les prospectus que vous recevez. Il reste un moyen efficace et simple de comparer les offres, permettant ainsi de se diriger vers les meilleurs. Donc, messieurs, mesdemoiselles, dans la boîte aux lettres, vous avez les meilleures offres commerciales, donc n'hésitez pas à les lire, puisque c'est bien connu. Ceux qui ont les moyens de faire des pubs ont.
Mais ce n'est pas le fait de recevoir le prospectus, d'avoir envie d'acheter des trucs, qu'on va avoir un pouvoir d'achat. C'est complètement absurde.
Bon. Eh bien, écoutez,
il faut payer la pub. Il faut payer la pub. On va en reparler un petit peu après.
Si vous l'avez pas reçu dans votre boîte aux lettres, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet, parce que
vous n'êtes pas obligé de l'imprimer non plus. Vous pouvez aussi juste le lire en ligne.
On reste toujours sur la pub. Moi, je me suis baladé dans le métro. J'ai eu une envie de Bretagne, un truc de fou. Mais j'ai vu une affiche dans le métro qui m'a refroidi direct. Il me semble que c'était une campagne de FNE, encore, toujours les mêmes, les hérissons. Cyril, je ne sais pas si tu peux nous en parler.
Ouais, ce qui est étonnant là-dedans, justement, toujours sur la pub, c'est que là, on voit une régie publicitaire d'affichage, qui gère les panneaux d'affichage dans le métro et dans le bus parisien. Donc, la société Métrobus, qui d'habitude est toujours prompte à attaquer les anti-pubs et à tout faire pour nous mettre un maximum de pubs dans le métro, bah là ils ont censuré une pub qui n'est pas une pub en fait, qui est une campagne d'affiches de FNE. Donc il y a plusieurs affiches dans la campagne, des affiches contre les pesticides qui tuent les abeilles, sur le danger du manque de connaissances sur les OGM. Et donc effectivement sur les algues vertes en Bretagne.
Qu'est-ce qu'on voit en fait sur ces affiches ?
Alors on voit un tout jeune enfant qui est en train de jouer sur la plage au milieu d'un champ d'algues vertes qui recouvre la plage. Et donc, c'est écrit « Bonnes vacances ». L'élevage industriel des porcs et les engrais génèrent des algues vertes. Leur décomposition dégage un gaz mortel pour l'homme. Donc, bon, on se souvient, enfin, on connaît tous les problèmes posés par les algues vertes en Bretagne. Donc, en fait, si Metrobus a décidé de ne pas afficher, de ne pas mettre cette affiche, c'est sur pression, notamment de l'Interbev et de l'Inarpor, donc qui représentent les industriels. De l'élevage en Bretagne. Et donc, Metrobus a pris l'initiative, sans quelque décision de justice que ce soit, de ne pas les afficher, contrairement à ce qui était, engagé. Donc, France Nature Environnement a découvert avec étonnement que 3 des 6 visuels prévus dans le dispositif d'affichage n'étaient pas présents sur les panneaux et qu'aucune explication officielle n'a été fournie. Donc, ils ont fait l'objet d'un référé, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont demandés à la justice de rendre une décision et la justice a donné raison à France Nature Environnement. Alors il y avait aussi une affiche qui parlait de gros menteurs qui dénonçaient. Donc c'est écrit en gros menteurs. On voit une côte de je sais pas quoi, de viande.
Pour le viandard que t'es, Cyril, t'aurais pu reconnaître quand même. Sur
ouais. Non, ça en fait, ça dénonçait l'absence d'étiquetage de la viande issue d'animaux nourris aux OGM. Voilà. Donc dans les 2 affaires FNE obtenues gain de cause, la demande d'interdiction de diffusion des visuels mis en cause a donc été rejetée car la mesure constituait une restriction disproportionnée de la liberté d'expression. Donc le président de France Nature Environnement a dit que le salon de l'agriculture est l'occasion pour de nombreux citoyens d'aller à la rencontre du monde agricole. La dimension festive de l'événement ne doit pas interdire tout débat à propos d'un modèle de production dont les impacts environnementaux ne sont plus à démontrer.
FNE... Parce que c'était quelques jours avant le salon de l'agriculture.
Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette réaction-là de l'Interbev et de l'INAPOR, parce que effectivement,
l'Interbev,
au moment de l'ouverture du salon de l'agriculture, ça faisait un peu tâche. Donc, la FNE ne se bat pas contre les agriculteurs, mais bien contre un modèle dont ces mêmes agriculteurs sont souvent les premières victimes. Et France Naturellement demande que l'affichage prévu soit respecté et s'indigne de devoir pousser ainsi un cri d'alarme face à cette censure alors que la dénonciation de pratiques néfastes pour l'environnement et l'émergence de mesures concrètes reste sa priorité. On a eu une réaction aujourd'hui d'un petit bonhomme à talonnette, notre président de la République. Le chef de l'État a commenté la campagne de communication de France Nature Environnement en la qualifiant de particulièrement déplacée. À l'occasion du salon de l'agriculture. Alors, c'est-à-dire que Nicolas, on se souvient de ta petite prestation au salon de l'agriculture et on se demande ce que tu peux encore trouver déplacé.
Pour rappel, c'était l'environnement. L'environnement, ça commence à suffire.
Donc il y a de nouveau, il y a de nouveau un communiqué de France Nature Environnement pour parler de ça. Est-il possible dans ce pays d'ouvrir le débat sur les questions agricoles sans que l'on nous reproche d'opposer les Français les uns aux autres ? Il n'est pas déplacé de demander la mise en œuvre complète des engagements. Agriculture du Grenelle, les OGM, les pesticides et les algues vertes constituent autant de risques sanitaires et environnementaux qui concernent l'ensemble de nos concitoyens. Donc voilà, il y a plein d'infos sur France Nature Environnement. On peut retrouver toutes les affiches de la campagne. Le site, c'est fne.asso.fr. Et puis un dernier petit mot sur Nicolas. Je me joins à l'appel qui a été lancé par les inculpés de Tarnac, lui signifiant que son avion l'attend à Villacoublay et qu'il peut prendre l'exemple de son copain Ben Ali.
Bon, bah, tu penses que ça va contaminer jusqu'à de l'autre côté de la Méditerranée? Enfin, contaminer, non, c'est plutôt ça va guérir tout le pourtour.
C'était très marrant le mot contamination d'ailleurs sur qui a été beaucoup utilisé.
Oui, c'est l'utilisation des mots. Bon, bah voilà, on a fait notre minute anti-pub, comme d'habitude, qui fait 15 minutes, c'est toujours comme ça.
Là, on s'est chroniques anti-pub pas... maintenant. Donc, on termine ouais, par une annonce des deux prochaines actions des Déboulonneurs, puisque bon, on va pas vous reparler des Déboulonneurs, vous savez ce que c'est maintenant. Donc, y a deux actions en région Île-de-France. Donc, il y en a une à Paris demain, vendredi 25 février à 19h. Le rendez-vous est à la sortie du RER, boulevard Victor, pont du Garigliano, ligne C, donc c'est le 15e. Et il y en a une aussi, donc il y a le collectif des Déboulonneurs de Saint-Quentin en Yvelines. Donc c'est sa troisième action, donc tout jeune collectif. Et donc c'est samedi 26 février à 10h30 à la Diagonale. Donc c'est à gare SNCF, station Saint-Quentin en Yvelines, Montigny-Bretonneux. Et salut Harlène en passant, puisqu'il est de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà.
Et donc, du coup, plus besoin de barbouiller. Il n'y a pas de risque. La campagne de FNE, puisque le Métrobus le fait pour vous.
Voilà, mais par contre, il reste tout le système publicitaire qui est derrière.
Ah oui, donc.
Et qui est rarement censuré. Donc là, à Saint-Quentin en Yvelines, ils proposent de recouvrir les panneaux et de laisser les citoyens qui déambulent dans la rue s'exprimer librement sur les panneaux. Bon, c'est temporaire. Il y a aussi du barbouillage. Donc, voilà, c'est sans risque pour les participants. Mais que les barbouilleurs qui prennent des risques, mais ils assument.
Ok, super.
Voilà, sur les déboulonneurs.
Alors, là, on passe donc la pub. C'est Clément, tu voulais parler d'une initiative locale, parce qu'ici, autour de la table, tout le monde aime le vin.
Ah,
mais oui. Le vin, c'est pas toujours. Il y a du gaz à effet de serre.
Ouh là là, il y en a partout.
J'ai vu que
Il y a du gaz dans le vin.
Alors, disons que le processus de fermentation, on voulait parler d'une action un peu positive.
Mais il paraît qu'en Gironde, ils ont toujours des solutions, même si le vin est meilleur.
C'est la coopérative des Hauts-de-Gironde qui a trouvé une petite solution intéressante pour à la fois économiquement et environnementalement. Donc, pour récupérer le CO2 émis par les cubes en fermentation et qui permettent de fabriquer du bicarbonate de soude, donc en récupérant le CO2 en haut des cuves, plutôt que de devoir l'éliminer à l'extérieur, ils fabriquent du bicarbonate de soude qui est un composé chimique utilisé largement dans des domaines comme les cosmétiques, l'agroalimentaire, l'environnement, le traitement de l'eau, etc.
C'est très utile à la maison aussi.
Oui, à la maison aussi, tout à fait. En quantité moindre. Mais
des muffins avec.
Oui, mais aussi on peut l'utiliser aussi pour nettoyer. Hein.
Ma mère l'utilisait pour
déboucher
pour blanchir les dents.
Au lieu d'utiliser des produits chimiques, on peut déboucher son évier. Ça n'a pas beau.
Bicarbonate de soude.
Bicarbonate de soude et de vinaigre.
Et on peut faire des petites expérimentations chimiques aussi avec.
Justement, en mélangeant avec du vinaigre,
c'est drôle, c'est drôle, oui.
Donc voilà, c'était la minute pinard. Et donc avec 100 000 hectolitres, on arrive à produire 1000 tonnes de CO2 et en bout, 1500 tonnes de bicarbonate de soude.
Oui, parce que dans l'expérimentation, avec deux cuves en une semaine, je crois que c'est ça, ils produisaient 1000 tonnes de bicarbonate de soude, ce qui paraît des quantités quand même importantes. C'est ce qui était indiqué dans l'article. Donc, alors là, on avait un sujet qui était assez intéressant sur le vélodrome Bling Bling, mais du coup, c'était Khaled qui devait nous en parler.
Dommage.
Et donc, on va passer directement, en fait, à la partie procès encore.
La minute procès.
Qui c'est qui est encore en procès?
On va faire une rubrique tous les mois. On va vous parler du dernier procès du Gamba, vu qu'il y en a encore un. Donc, le Gamba, groupe d'action non violente antinucléaire. On avait déjà parlé de leur procès pour le blocage du train de déchets de la Gorleben le mois dernier. Et donc là, c'est toujours le Gamva. On avait dit qu'on ne parlerait pas de nucléaire ce soir, parce qu'on en a parlé pas mal les dernières émissions. Et ben, l'actualité nous rattrape et nous impose de parler de ce nouveau procès du Gamva pour l'occupation donc, de pylônes THT.
Alors,
ce
n'est pas directement lié au nucléaire, c'est pas que.
Alors, ce n'est pas que lié au nucléaire. Mais c'est quand même la ligne THT qui est censée... partir du réacteur
EPR,
EPR, voilà, merci, en construction.
De où
En Normandie, dans la Manche.
Flamanville.
Donc c'est quand même directement lié à la construction d'une centrale nucléaire. C'est pas les éoliennes au large qui poussent à...
ils avaient occupé des pylônes de ligne, donc c'était aussi pour dénoncer le passage de ces lignes à très haute tension au milieu des habitations. Et ce lundi 21 février 2011, à 14h, a été prononcé le jugement de cette action de désobéissance civile. Alors, résultat, reconnu coupable, mais dispensé de peine au pénal, mais quand même 6 000 € de dommages et intérêts pour RTE, donc le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, au lieu des 83 000 € demandés. Voilà. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu la relaxe. Le juge nous a donc, c'est un communiqué du Gamba qui dit, le juge nous a déclaré coupable, mais pour une infraction qu'il a considérée minime. Il a tenu compte du contexte militant, du sérieux avec lequel l'action a été faite, et nous a dispensé de peine. Nous considérons qu'il a entendu notre argumentaire sur l'aberration du nucléaire et sa relance, et sur les impacts des lignes très haute tension. RTE n'obtient pas les sommes disproportionnées qu'il réclamait. Il a essayé en vain de se poser en victime. Les victimes sont les populations impactées par les lignes très haute tension existantes et en projet. Merci pour votre soutien. La lutte continue et surtout, ne lâchons rien.
Bon, et tu nous en prévois un autre pour le mois prochain, parce que bon, quelqu'un va être très impliqué dans plein de...
Maintenant, il y a leur appel. Ils ont fait appel du dernier procès, donc à suivre.
Très bien. Eh bien, écoutez, là, on va faire une petite pause musicale. Donc, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec la bande à Bébert. Johan, qu'est-ce que tu nous as prévu là pour les 3-4 prochaines minutes?
No One Is Innocent avec de Gasoline.
À tout de suite. Oui, et donc on était avec No One is Innocent, Gasoline, il me semble, hein, Johan, il est concentré là-bas.
Puisqu'on a parlé du gaz, donc c'était
oui, alors, donc on va intervenir, donc justement, Clément le disait très justement, avec gaz à tous les étages. C'est comme ça qu'on avait annoncé l'émission. On va parler du gaz de schiste, mais en fait, avant d'introduire ça et de faire intervenir Aloïs Ligo, j'aimerais que Yuan nous a... Il était chez, c'est quoi ? T'étais chez le médecin et tu nous as dégoté un science, nature, je sais pas quoi. Une petite perle aussi. Yuan, c'est quoi ?
Oui, vraiment trouvé par hasard une revue trouvée dans la salle d'attente d'un médecin et qui s'appelle Science et Avenir, une revue très intéressante qui date d'août 97, un hors-série qui est assez stupéfiant parce que c'est une revue qui est assez axée un hors-série qui est assez axé sur l'environnement et on y retrouve, alors ça date de août 97, je veux le souligner énormément parce qu'on retrouve tous les problèmes qu'on ressort actuellement. Il y a des articles sur découverte des embryons de dinosaures, donc la génétique, l'auto électrique publique, la pollution de l'air, un article sur James Lovelock, l'inventeur de la thèse de Gaïa, l'explosion d'Internet, les expériences sur les souris fluorescentes incorporant l'ADN de méduses, comment détecter les aliments transgéniques. C'est comme ça que je me suis rappelé que l'obligation d'étiquetage européen datait du 15 mai 1997, et c'est toujours pas mis en place correctement, la polémique sur les lignes de tension et le manque des sérieux des études, l'avion électrique, le premier essai d'avion électrique sans pilote appelé Pathfinder, monté à une altitude de 20 528 mètres. Hein. On a parlé récemment d'un avion électrique qui a battu un record. L'utilisation des biocapteurs pour la détection rapprochée, donc le lien entre la biologie et l'électronique. L'épaule en danger, le constat alarmant sur la pollution chimique et radioactive aussi. Les sommets, en 92 il y a eu le sommet de Rio, là il y avait un petit hiatus sur les sommets pour rien, c'était le titre de l'article. Les problèmes des pesticides, la mortalité chez les agriculteurs, les troubles hormonaux, etc. L'article est très intéressant et terriblement actuel. La Bretagne, l'eau de mer polluée, ça rappelle une campagne actuelle aussi. La morale des singes, les sentiments chez les animaux aussi, etc. etc. L'igno, les conséquences climatiques dans le monde, le problème de rejet de la hague, la lutte contre l'effet de serre, etc. etc. Et un article très intéressant avec un titre vraiment fort et interrogatif. Pétrole, la pénurie à partir de 2015. Et nous sommes en 97 hein, quand cet article est écrit, avec deux personnes, un camp oui et un camp non. Le camp oui porté par Greg Bondatfield, un géologue, et le camp non porté par Olivier Appert, directeur général adjoint de l'Institut français du pétrole. Et c'est stupéfiant parce qu'on a le camp oui qui nous parle de courbe d'exploitation en forme de cloche, donc de baisse de la production dans les années à venir, de pénurie qui sera ressentie fortement en 2040, un épuisement pour 2100, mais donc un épuisement, une fin d'augmentation de la production avant 2015 même. Un constat sur le rôle que joue le Moyen-Orient dans la production actuelle, c'est assez intéressant. Et il propose déjà à cette époque d'investir dans les recherches de carburants de substitution, les énergies renouvelables, et éviter le gaspillage. Voilà. Et le camp non, et c'est notre lien avec les gaz des schistes, qui se base essentiellement sur la découverte de nouveaux gisements, sur l'augmentation de la part du gaz dans la production d'énergie, de l'augmentation et des extraordinaires progrès techniques avec une augmentation du taux de récupération du pétrole, d'exploitation de nouvelles zones minières inaccessibles, du forage en eau profonde. On a vu ce que ça donnait au Golfe du Mexique. Hein. D'ailleurs, le Golfe du Mexique était cité. Et la part grandissante du gaz et c'est assez édifiant. Voilà.
Bon, bah justement, donc on fait la transition. Donc c'est 97, on est en 2010, 2015, c'est bientôt la fin du pétrole. Mais heureusement, alors, est-ce que c'est la fin du pétrole et l'arrivée du gaz? Est-ce que le gaz va sauver la civilisation du pétrole? Et pour répondre un petit peu à cette question, et pour parler un petit peu de ce buzz-là, qui est le gaz de schiste, on en entend parler partout. Donc on a invité Aloïs Ligo, donc je recommande chargé de campagne responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des industries extractives des Amis de la Terre, France,
aux Amis de la Terre.
Voilà. Aux Amis de la Bière.
C'est ça.
Voilà, donc Aloïs, alors juste parce que tout le monde connaît les Amis de la Terre, en tout cas nous, juste tu peux nous faire en, en 30 secondes, tu peux nous récapituler.
Qui sont les Amis de la Terre ?
Qui sont les Amis de la Terre ? Qu'est-ce que c'est ? Bah, et la question après, la suite, c'est quoi le gaz de schiste ?
Ok. Bah les Amis de la Terre, c'est une association de protection de l'environnement, hein, c'est une asso écolo comme on dit, association de protection de l'homme et de l'environnement, qui a été très tôt qui s'est positionné très tôt sur le terrain de ce qu'on appelle l'écologie politique, c'est-à-dire lier en gros les programmes environnementaux avec les programmes sociaux et politiques. C'est une vieille asso, ça a été créé en 1970, et ça a la particularité d'être un réseau très décentralisé, à la fois en France, avec beaucoup d'actions, d'informations qui remontent de nos groupes locaux, et à l'international, on est présent dans 170 pays, avec environ 2 millions d'adhérents.
D'accord.
Voilà.
Et donc du coup, là justement, là, en ce moment, on est en train de parler, on parle beaucoup du gaz de schiste, on entend parler, ça, c'est en train de beaucoup, il y a beaucoup d'initiatives qui démarrent dans l'Ardèche, Massif Central, vers Montpellier, Montélimar. Justement, alors qu'est-ce que c'est le gaz de schiste ? Juste nous dire juste ce que c'est, quoi. Si c'est bien, si c'est mal, mais juste déjà, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est que ce mystère qui se cache sous le gaz de schiste ? Bah, le gaz de schiste, c'est pas compliqué, c'est du gaz naturel, qui a la particularité d'être présent dans le sous-sol, non pas sous la forme de poches de gaz, mais disséminé sous la forme de microbules dans la roche mère.
Donc ça reste du gaz naturel tel qu'on l'utilise en temps normal.
Exactement. D'accord. Exactement. C'est juste la manière dont il se trouve dans la roche qui est différente.
Donc gaz, alors c'est ce qu'on appelle le gaz non conventionnel, en fait, puisqu'en fait, c'est ce que j'ai compris, c'est ça. C'est qu'on a le gaz conventionnel, c'est celui qu'on trouve facilement, on va dire. Et là,
voilà, alors le gaz conventionnel, c'est le gaz qu'on trouve sous la forme de poche de gaz, de gisement de gaz bien identifié. Celui-là, il est dit conventionnel parce que les techniques de forage utilisées pour l'extraire sont connues, rodées, donc conventionnelles.
Justement, là on a interviewé comme ça dans la rue vite fait, on a attrapé une dame, justement elle travaillait il me semble pour l'Institut français du pétrole, et qui nous parle aussi du gaz de schiste justement, et qui nous dit moi je suis pour.
D'accord.
Isabelle Moretti, pourquoi être pour le gaz de schiste?
Bah, globalement, je pense que n'importe quelle richesse dans le sous-sol est une bonne nouvelle. La production, l'exploitation des gaz de schiste n'est pas forcément polluante. Il faut simplement bien travailler. Et donc, il faut qu'il y ait des réglementations. Bon, il y a déjà beaucoup de réglementations qui sont mises en place, qu'elles soient appliquées et qu'on s'assure que ce soit une production en effet non polluante. Mais à côté de ça, toute richesse est bienvenue. On a une dette, on a des impôts, un régime social qui est en baisse. Et pour moi, toute richesse dans le sol français est une très bonne nouvelle. Et ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique. En tout cas, on peut produire propre n'importe quelle richesse actuellement.
Malgré la fracturation des roches, malgré l'injection de l'eau et l'atteinte au paysage.
Une grande partie de l'eau qu'on injecte est repompée derrière, peut-être traitée comme n'importe quelle eau industrielle. Et ensuite, au niveau du paysage, c'est vrai qu'au moment où on fait le puits, on va occuper l'équivalent d'un terrain de foot pour les camions, les aires de forage, etc. Et ensuite, si la loi dit remédiation, ensuite on replante des arbres et 4 ans après, c'est comme avant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, les gens étant propriétaires de leur sous-sol, ils s'enrichissent sur les puits et remédier, ça ne les intéresse absolument pas. Ils prennent l'argent, ils vont à la plage et ils restent leur champ abîmé. Mais ce n'est pas... Il n'y a aucune nécessité que ce soit comme ça. On peut replanter derrière, comme après n'importe quelle activité.
Isabelle Moretti, sur Reporter, le 2 février 2011.
Première nouvelle déjà, c'est il faut 4 ans pour qu'un arbre pousse. Alors là, il faudrait m'expliquer. Bah, peut-être que sur des sols aussi riches, je sais pas en quoi.
Ouais,
c'est
possible. C'est un arbre géant.
donc c'était pas la bande à Bébert hein, qui avait interviewé. Figé,
c'est Reporter Hervé Kampf.
Hervé Kampf, je sais pas si on t'a entendu dans le micro.
Merci Hervé pour cette magnifique interview.
Parce que, c'était magnifique. Pas mal. Bon, bah, j'écoute cette dame de l'IFP, hein, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, puisqu'en fait c'est comme le CEA, c'est ça, ça a changé de nom.
Oui, disons qu'ils ont eu une petite touche verte, hein, puisque tout est vert, tout est propre maintenant.
Comme le prospectus.
Bah, même ce genre d'institut ou de commissariat ont une petite branche propre, quoi. Voilà.
Bon, bah Loïs, moi je suis rassuré.
Bah écoute, moi je pense qu'on est tous rassurés, hein. Gaz de schiste résolve le problème de la dette. C'est excellent.
Notre niveau de vie, bouche le trou de la sécu.
Moi j'ai noté, on peut produire propre n'importe quelle richesse actuellement. Voilà. Donc même les armes, même le nucléaire, tout est propre, tout est beau, tout est nickel. Et c'est juste parce que les Américains, ils ne savent pas s'y prendre.
C'est des cochons et ils ne savent pas faire ça proprement.
Évidemment.
Voilà. Justement, en parlant des Américains, il me semble que justement le gaz de schiste, ça fait quand même... Est-ce que c'est une énergie qui est nouvelle? Parce que là, on en entend parler beaucoup maintenant. On a l'impression que c'est quelque chose sur lequel les Nord-Américains, ils sont quand même... ils travaillent dessus depuis un moment. Ils sont même... je ne sais pas quel producteur mondial, premier, deuxième, enfin bref, ils sont bien en avance. Si tu peux nous toucher du coup deux mots par rapport à ça, justement, là.
Ouais,
le gaz de schiste nord-américain.
Bah le gaz de schiste, encore une fois, le fait que le gaz soit présent sous forme discrète, hein, comme on dit, dans les roches mères, ça, dans ces schistes, dans ces roches sédimentaires, ça fait longtemps qu'on le sait. Ce qui est nouveau, en gros, c'est que la technologie soit suffisamment économique, peu cher, pour pouvoir exploiter de façon à faire un profit cette ressource. C'est ça qui est nouveau. Aux États-Unis, ça fait 20 ans à peu près qu'ils exploitent le gaz de schiste de façon industrielle. Ils sont parvenus à atteindre leur indépendance énergétique au niveau du gaz.
Avec les États-Unis sont 100%, ils se fournissent eux-mêmes la portion de gaz, d'utilisation du gaz.
Voilà, ouais. Et alors je ne sais pas d'où ils viennent, mais actuellement ils sont 3e producteur mondial de gaz naturel, c'est absolument énorme.
Donc grâce justement à cette exploitation.
À cette ressource, voilà. Mais sur des territoires vraiment considérables, quoi. Si on regarde les bassins, par exemple le bassin le plus connu, là, le plus grand, le bassin de Marcellus. Il couvre carrément tout le nord-est des États-Unis sur plusieurs États. C'est colossal, quoi.
J'ai vu qu'ils étaient même repassés devant la Russie en termes de production de gaz.
D'accord.
Donc je ne sais pas si c'est peut-être les données de l'année 2010.
C'est possible, mais la Russie était deuxième, je crois.
Voilà, donc en fait, il y aurait quand même des gisements énormes, ouais. Bien que ce soit coûteux environnementalement.
Exactement.
Parce que c'est qui sont les pays là qui sont les premiers, disons, sur le marché du gaz et conventionnel et non conventionnel via le gaz de schiste.
Alors, je crois qu'on se dispute les premières places entre le Qatar, la Russie et donc les États-Unis là récemment.
Donc, grâce à cette intervention.
Voilà, mais sur du non conventionnel. Donc là, c'est deux ressources quand même bien différentes. Hein,
parce que moi il y a une question du coup, parce que sur la zone nord-américaine, on a beaucoup parlé notamment des schistes bitumineux, des sables bitumineux, gaz de schiste. En fait, j'aimerais bien comprendre en fait quelle est la différence précise. Parce qu'il y a du pétrole de schiste, c'est ce que j'ai compris aussi.
Ouais.
On confond, mais c'est vrai que là j'ai du mal à piger en fait un peu. La différence entre tous ces termes.
Alors, le gaz de schiste ou le gaz, c'est-à-dire le gaz non conventionnel ou conventionnel, reste du gaz. Le pétrole conventionnel ou non conventionnel reste du pétrole. Donc la ressource est la même. C'est la façon dont elle se trouve dans les sous-sols qui est différente. Et donc la technique pour l'utiliser qui est différente. Le gaz conventionnel, pour l'exploiter, on colle un tuyau dans le sol, on pompe, c'est facile. Le gaz non conventionnel, c'est plus compliqué. Il faut fracturer les roches dans lesquelles le gaz est contenu. Pour ça, il faut injecter de l'eau, injecter des solvants, des produits chimiques pour aider la libération du gaz et ensuite pomper le tout à la surface.
Ok, du coup, on arrive à voir quand même rapidement quels peuvent être les problèmes, parce que j'imagine que si on en parle beaucoup en ce moment... alors, finalement, la question, c'est pourquoi, est-ce que, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, pourquoi on en parle maintenant, pourquoi ça a complètement flambé, on en parle dans tous les médias en ce moment, puis même le gouvernement, le ministère de l'Environnement s'y est mis dessus, a réagi, ministère de l'Industrie, etc. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma question. C'est, oui, voilà, quels sont le problème, en fait, quel est le problème avec le gaz de schiste, que ce soit bon, économiquement, écologiquement
Ben, pourquoi on en parle maintenant? C'est que jusqu'au 1er mars dernier, en réalité, le gaz de schiste, on pensait que c'était quelque chose qui était cantonné loin, là-bas, aux États-Unis, au Québec, donc quelque chose qui ne nous concernait pas. Or, le 1er mars, au stupeur, on a vu trois permis, ça s'appelle des permis d'exploration, des permis exclusifs d'exploration, des PEX, attribués à plusieurs compagnies, donc certaines bien françaises, Total, GDF, et d'autres qu'on connaît un tout petit peu moins, des américaines, attribuées sur le sud-est de la France, du côté d'un petit bled qui s'appelle Nantes, pour ceux qui connaissent, Villeneuve-de-Berg, Montélimar.
Oh, oui.
Voilà. Et ce qui pose problème, c'est qu'on se rend compte que c'est une technique qui n'est pas du tout... qui n'est pas du tout indolore, notamment sur le point de vue environnemental. Il faut mobiliser des quantités phénoménales d'eau pour réussir à fracturer cette roche. Hein, imaginez, c'est 200-300 mètres de roche qu'il faut arriver à fracturer. Donc pour ça, il faut pulvériser. On dit, alors le chiffre qui circule, c'est l'équivalent de 6 piscines olympiques, hein, pour donner un ordre d'idée.
6 piscines olympiques, c'est-à-dire on utilise...
On injecte l'équivalent, le volume équivalent à 6 piscines olympiques dans le sol.
Pour traiter
très haute pression, pour fracturer la roche.
D'accord.
Voilà. Ajouter à ce volume d'eau, on a environ 1% de produits chimiques. Alors 1% à ce volume-là, ça représente 200-300 tonnes de produits chimiques pour chaque fracturation. Et les fracturations, ensuite, sont répétées de façon très nombreuse, parce qu'il faut bien voir que la durée de vie d'un gisement de gaz non conventionnel est très courte par rapport à un gisement de gaz conventionnel.
C'est-à-dire que là, on a sur... Alors, je ne sais pas si la personne de l'IFP là, qu'on entendait à la radio le disait. Alors, c'est combien de temps à peu près on sait l'exploitation d'un site? On sait si c'est...
Vu l'exemple américain,
10 ans, 15 ans,
c'est
5 ans.
C'est 5 ans.
D'accord. 5 ans et 4 ans plus tard, il y a des arbres dessus.
Voilà, donc ça, c'est... Là, on est...
Parfait. Il y a 4 ans de 9 ans, c'est pas non plus...
Oui, c'est exploiter les gaz de schiste aussi. Il n'y a pas besoin des Américains.
Oui, parce que ce qu'elle disait, c'est justement, je rebondis sur la réaction, c'est que les Américains faisaient ça comme des cochons, les Français font ça bien, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des sociétés américaines qui étaient impliquées dans le coup.
Ben, c'est l'argument que Nathalie Kosciusko-Morizet a avancé à l'Assemblée nationale pour dire ça, nous on va faire ça à la française, bien comme chez nous, proprement, pas comme les Américains. Or, le truc, c'est que c'est une industrie qui s'est développée aux États-Unis. Et pas en Europe, et la technique, elle est détenue par des sociétés américaines. Des boîtes françaises n'ont pas la technique, donc elles sous-traitent ou elles se mettent en partenariat avec des boîtes américaines. Donc en réalité, ce sera fait à l'américaine en France.
Donc si c'est fait à l'américaine, qu'est-ce qu'il en est justement en ce moment des conséquences environnementales? Est-ce qu'on a déjà des retours après 20 ans, 15 ans d'exploitation nord américain? On sait un petit peu ce que ça a donné sur le sol, l'eau la biodiversité locale.
Alors, je suppose que vous avez tous vu le film, l'excellent film Gasland de Josh Fox.
Alors, on l'a évoqué, on l'a évoqué à la dernière émission, justement.
Alors, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir.
Oui, en l'occurrence, je ne l'ai pas vu. Mais...
C'est un espèce de road movie américain où Josh Fox, part à la rencontre des gens de l'Amérique rurale touchés par les gaz de schiste et qui témoignent notamment de l'impact, notamment sur l'eau. Et alors, ce qui est vraiment très frappant, c'est voir les flacons d'eau qui montrent à la caméra, qui sont tous bruns, noirâtres.
Qui sortent en fait des cours d'eau.
Voilà, exactement. Donc ça, les pollutions au méthane des réservoirs d'eau. Et bien plus préoccupant, le mélange entre le méthane et l'eau, qui fait que lorsqu'on approche une flamme du robinet, le tout prend feu. Donc on a des...
C'est ce que, alors c'est ça, il me semble que c'est Clément qui évoquait ça à la dernière émission. Justement,
je disais que c'était génial, on avait de l'eau chaude direct.
Voilà.
C'est super. Tiens, le feu pour la cuisson.
C'est voilà. Pas pratique voilà. Pour les incendies.
Oui, mais... effectivement.
Merci Cyril, intervention sécurité.
Tu jettes de l'alcool sur une flamme, ouais, c'est pareil. Quoi.
Mais ce qui est inquiétant aux États-Unis, c'est qu'après une ou deux décennies d'exploitation, on n'est pas une vision claire des impacts environnementaux des gaz de schiste. Et pourquoi ? Parce que l'organe de protection de l'environnement américain, donc l'Environmental Protection Agency,
le EPA,
voilà,
c'est
le,
ça,
fameux, ouais, le fameux EPA, ouais. N'a pas le mandat pour pouvoir mener des enquêtes approfondies sur ces impacts environnementaux.
Et là, sur justement, parce que l'EPA, ils ont été très remarqués, moi je m'en rappelle, en termes de lobbying, je me rappelle l'émission de. Enfin, c'était Madame Robin, enfin la journaliste
Marie-Monique Robin,
justement, ouais. On en parlait beaucoup de l'EPA pour le coup, qui était vraiment maquée avec les lobbying. Bon, là, c'était l'agro-industrie. Est-ce que là, on est dans la même, est-ce que c'est déjà, c'est les mêmes acteurs du pétrole, c'est les mêmes acteurs du gaz, du gaz non conventionnel. Est-ce qu'on a les mêmes industries, le même lobbying, etc.
Bah, là, très clairement, le lobbying, il s'exerce contre l'EPA, hein, donc. Après, je sais pas exactement quelle est la position de l'EPA, mais au vu en tout cas du premier rapport là qui a été publié en 2004, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils soient pro gaz de schiste.
Ils sont juste limités.
Ils sont limités dans leurs moyens. Et là, je lisais le journal aujourd'hui. Apparemment, les Républicains mènent un lobbying féroce pour couper les vivres à l'EPA. Et diminue son budget. Donc, mauvaise nouvelle pour les gaz de schiste. Enfin, mauvaise nouvelle pour l'environnement aux États-Unis, bonne nouvelle pour les gaziers.
On aura du gaz.
Voilà.
C'est bon.
Oui, donc avec ce film, donc Gazland, en fait, qui est assez récent, il date de 2010. Apparemment, c'est un gros buzz, quoi. Il est nominé aux Oscars 2011, qui auront lieu dans 3 jours.
C'est pas le reportage obscur. Les gaziers
flippent vraiment parce que c'est scandaleux pour eux qu'ils soient nominés. Si en plus il était promu, ce serait vraiment la catastrophe. Apparemment, ils ont essayé de faire un film caméra à l'épaule, un peu sur le même style, pour dire non, mais les gaz de schiste, c'est sympa, un peu comme le prospectus tout à l'heure. Et apparemment, ils s'enfoncent avec cette contre-campagne. Et Gazland aux États-Unis, c'est un vrai buzz et ça marche d'enfer. Et le réalisateur se balade dans tout le pays, est même venu à Londres récemment pour parler de son film. Et vraiment ça monte et je pense que l'EPA, il disait qu'il a réussi à diffuser justement dans cette agence son film, il a diffusé au Sénat, l'information passe vraiment par ce film et lui en fait il est parti de ça parce qu'il a reçu dans sa boîte aux lettres une proposition de gazier qui voulait exploiter son terrain et il s'est dit non, moi c'est mort, j'habite à côté d'une rivière sympa avec des bois et tout, on va pas tout casser pour avoir du pognon quoi. Alors je vous invite à venir demain, vendredi, donc il y a une projection à Paris, donc ça peut être sympa de s'y rendre. C'est au comptoir général, donc 4G Map dans le 10e, le numéro je ne l'ai pas exactement, vers la place de la République au début du 4G Map. Donc au comptoir général, c'est à 19h, et donc Gazland avec un petit débat après. Voilà.
Est-ce que tu as les invités ou non, c'est un débat avec le réalisateur
Je sais pas. Non, je pense pas que le réalisateur soit là. Non, c'est une projection. En fait, parce qu'il y a un collectif qui se monte en Ile-de-France contre les gaz et pétrole de schiste.
Alors justement, on va peut-être parler des initiatives françaises.
Mais voilà, c'était pour faire la transition. Et donc, si vous souhaitez voir ce film, il y a des petits teasers sur Internet, mais le mieux, c'est de le voir en entier. Et puis, pourquoi pas collectivement pour en discuter après. Okay, au comptoir général, demain vendredi à 19h.
Du coup, alors on parlait des initiatives françaises, tu nous représenteras là de justement ce collectif qui va se monter. Donc c'est demain, c'est ça, c'est qui va démarrer officiellement demain, ou c'est une première réunion
Oui, c'est ça, c'est pour se lancer. Il y a un collectif francilien. Collectif francilien qui est donc surtout sur les exploitations les explorations envisagées en Seine-et-Marne.
Alors voilà. On parle du coup, on arrive à la zone française, on a parlé beaucoup du gaz de schiste nord-américain, on a parlé un petit peu de la zone justement Mende, Montélimar, Montpellier, tout ça, tout la partie massive centrale. Alors c'est quoi le problème en France? Parce que si on en parle aussi en France, c'est parce que il s'avère que tiens, on a du gaz de schiste chez nous.
On a du gaz de schiste et on a des huiles de schiste également.
D'accord.
Alors les huiles, c'est le pétrole de schiste. C'est-à-dire que c'est la même chose que le gaz de schiste, mais version pétrole. Donc pétrole présent dans les roches sédimentaires à extraire avec de l'eau. Et ça, c'est une boîte qui s'appelle Toreador Energy, qui est en phase d'exploration.
Oui, parce qu'en fait, en ce moment, pour l'instant, on n'en est qu'à cette phase. C'est-à-dire, on n'est pas à l'exploitation,
ouais.
On a à l'exploration. C'est-à-dire, on étudie la possibilité.
Ouais. Alors, Toreador, c'est le plus avancé en la matière. Hein. Ils ont renouvelé leur permis d'exploitation récemment. Ils ont signé un gros partenariat avec une boîte américaine qui s'appelle HE2S, qui est bien connue du secteur. Un gros partenariat à 150 millions de dollars. Et donc, cette boîte, Toreador, c'est son vrai nom. Et elle est vraiment intéressante parce qu'on retrouve dans son conseil d'administration des anciens de l'administration Bush.
Ouais.
Voilà.
Okay. Bon.
Bien connu, bien connu du secteur, bien introduit dans le secteur, dans le lobbying pétrolier gazier. Et le président de la compagnie, donc Toreador, n'est autre que Julien Balkany.
Ah, un nom connu.
Un nom qui sonne agréablement à nos oreilles.
Donc pour rappeler, voilà. Qui est le demi-frère, c'est ça,
de Patrick.
Patrick Balkany.
Voilà. Voilà. Donc,
qu'on ne présente plus, hein, Cyril, voilà. Je te sens bouillonner. Là.
Toujours dans un bon coup.
Alors justement, Clément parlait de la Seine-et-Marne, c'est-à-dire que donc justement, qui c'est qui est parce que là, il y a des exploitations déjà de pétrole, parce qu'on connaît peu, mais la France produit du pétrole.
La France produit du pétrole, mais ouais, certes, une production marginale de pétrole.
D'accord. Ouais, et donc c'est justement dans ces zones en Seine-et-Marne où parce qu'il y a des exploitations aussi qui se sont ouvertes dans les Yvelines. Je pense à Raleigh des Lys là justement. Il y a des permis. Qui sont en train de discuter justement dans ces zones.
Il y a des permis de pétrole partout en France. Si on regarde la carte qui est produite par le ministère de l'Environnement, on retrouve des permis alors à toutes les phases, hein, que ce soit de l'exploration, de l'exploitation, vraiment partout en France, quoi. Au large de la Bretagne, au large du Sud-Ouest, sur les Landes, Alsace, Picardie, Île-de-France, Sud-Est. Mais c'est marginal. La grosse différence avec le gaz de schiste, c'est que les volumes de production pourraient être vraiment gros, gros. D'accord. Et donc économiquement intéressant, quoi, pour les compagnies.
On va enfin devenir indépendant énergétiquement.
Ben, c'est ce que prétend Total. Après, est-ce que c'est la réalité ?
Clément, tu voulais intervenir ?
Je voulais dire. Oui, après, est-ce que même si on arrive à en produire beaucoup, est-ce que c'est une bonne idée, cette fuite en avant vers les énergies fossiles, finalement ? Parce qu'on sait qu'il va falloir... en sortir, et donc
tu poses vraiment la question centrale, quoi. Gaz, énergie de transition ou pas? Alors énergie de transition certainement, mais dans quelles conditions, quoi?
Parce que là on a un peu peur, c'est un peu la peur, on a l'impression que là c'est bon, le pétrole, ok, on a pigé, il y en a presque plus, ou en tout cas ça va être de plus en plus cher à aller chercher. Est-ce que du coup là, c'est
avec le gaz,
l'avènement
bingo.
Du gaz, voilà. Jackpot, on est reparti pour 150 ans.
Gaz à tous les étages.
Voilà, gaz à tous les étages, c'était l'émission ou la boisson gazeuse justement,
voilà.
Avec l'eau.
Voilà. Et ben il faut regarder ça à plusieurs niveaux, au niveau des volumes disponibles, certainement, si ça marche, au niveau de l'intensité carbone, des impacts sur le climat, c'est loin d'être neutre. Apparemment, certaines études publiées par l'université de Cornell aux États-Unis feraient état d'une intensité gaz à effet de serre similaire à celle du charbon, si on prend en compte les fuites de méthane.
Les fuites de méthane, alors qui sont à quel niveau là? Parce que tu nous en parlais.
Alors au niveau des puits.
Des puits d'exploitation.
Au niveau des puits d'exploitation, une fois que vous avez foré, vous avez une tête de puits. Et visiblement, du méthane continuerait à s'échapper continuellement de ces têtes de puits. Or, le méthane a un pouvoir réchauffant bien supérieur à celui du CO2. Donc il faut tenir compte de ça, il faut tenir compte du transport, de tous les du balai de camions incessants nécessaires pour installer les forages un tout petit peu partout sur le territoire. Et si on ajoute tout ça, on arriverait à une intensité carbone qui serait considérable, en tout cas bien supérieure à celle du gaz naturel.
Donc le gaz serait un leurre, en fait, de nouveau. Donc, pour,
exactement. Gaz non conventionnel, gaz propre. On répond
même,
non.
Même combat.
Exactement, exactement. Et le deuxième argument, c'est que tout ça risque de maintenir un prix du gaz artificiellement bas et de freiner, en tout cas de ralentir la transition vers les investissements dans les énergies renouvelables.
Ok. Clément, j'avais juste une question, on en profite. Voilà.
J'en rajoute.
Justement, est-ce qu'on avait deux, trois choses à annoncer en digestif ou pas ? Clément, je te pose la question en direct.
Des choses à annoncer. Alors, il y a une pétition, Gaz de Justice, non merci, sur pétition24.net. Donc déjà
qui fonctionne
51
à 000 fond.
Signataires.
Voilà.
Donc, allez signer pétition24.net.
Voilà, il y a aussi, on annonce un blog, le blog qui alors c'est blog, alors ça dépend de l'Ardèche, 07, alors je sais plus.
Ah oui, ça bouge pas mal en Ardèche, donc effectivement, il y a un collectif qui s'est monté, donc on peut avoir les infos sur stopaugazdechiste07.org. Et il y a une grosse manif d'ailleurs le 26, donc samedi prochain, à Villeneuve-de-Berge.
14h.
Donc, si vous êtes en Ardèche, par là, c'est pas loin de Montélimar, allez faire un tour. Ça va bouger pas mal.
Est-ce que les amis de la Terre aussi ont fait un dossier justement sur gaz de schiste ? C'est dans les tuyaux. On peut déjà aller consulter deux, trois trucs
sur le site des amis de la Terre, rubrique énergie, notre petit briefing sur les gaz de schiste. Et alors, vous parliez de la mobilisation. Alors, la mobilisation, elle fonctionne à fond sur le sud-est. En région parisienne aussi, donc il y a le collectif Seine-et-Marne qui s'est monté. Hier, un collectif Paris s'est monté et tout ça est chapeauté par une coordination Île-de-France qui se réunit tous les dimanches à 18h au bar Le Lieu-dit dans le 20e arrondissement.
Donc on peut regarder, on tape sur un moteur de recherche, on trouve facilement. Je ne sais pas si on a le lien direct. Là.
Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait de lien parce que c'est un collectif qui est très jeune. D'accord. Mais en tout cas, Le Lieu-dit, 18h.
Ok, eh ben on y sera.
Bon, ça s'organise, donc en gros, il n'y aura pas d'exploitation de gaz de schiste en France. On peut l'espérer, parce qu'il y a déjà eu un recul du gouvernement sur, au moins temporairement.
Il y a eu, alors, le gouvernement, sous la voix de NKM, a pris acte des revendications qui portaient sur une étude. Elle a annoncé une étude. Le problème, c'est que cette étude n'est pas et ne sera pas indépendante, puisqu'elle est gérée par le ministère de l'Industrie et de l'Environnement.
Besson, non ?
Voilà, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, je crois qu'on en connaît les conclusions par avance, c'est pratique. Et donc, la mobilisation continue pour arriver à l'arrêt total des gaz de schiste, et vu que les populations ne sont pas d'accord, ce sera très difficile que ça se fasse.
Bon, bah écoutez, on se renseigne, hein, on va sur le site des Amis de la Terre, rubrique énergie, et si besoin, on peut contacter aussi le chargé de campagne responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des industries extractives aux Amis de la Terre France. Donc merci à Loïs Ligaud d'être venu dans Zoom Écologie, la bande à Bébert qui était devant toi. Et donc là, je ne sais plus, je pense que Johan me fait des croix pour me dire que c'est la fin.
Alors, moi, je veux juste faire une petite annonce. Si pour vos vacances en Tunisie, par exemple, vous cherchez à être écolo, signalez l'existence du site codejetage.fr, donc c'est le numéro 1 du partage de jets privés.
Pas de publicité, s'il vous plaît.
C'est enfin une idée écolo de droite.
Donc c'est parti, aéroport Le Bourget direct, là on part. Donc voilà, hein, donc vous étiez sur 106.3, Zoom Écologie avec la bande à Bébert. Et d'ailleurs, comme dit Bébert, salutations écologiques et solidaires. The Exxon Valdez wrecked itself, I suppose. What's left of the life and the prince we upset? Might not condone what our court of law found. And it's oil, you go oil. Yeah, creeping in the city. And it's oil, and it's oil. Come buy it at the station, you can get it now for free. Just come on down to the shoreline where the water used to be. Right. Red
registered in through the Liberian tours, passing the Shetlands near Scotland's cold shores. What a single-hulled ship with his engine broke down, drifted 5 hours and then ran aground. Brightwood Wildlife Preserve chance to be 20 million more gallons got free. Don't worry, folks, it's light crude, they did say. It'll probably break up and be gone right away. Oil,
oil.
Now it's all below, creeping in the sea. And it's all
oil.
And it's oil,
oil.
Don't buy it at the station, you can get it now for free. Just come on down to the shoreline where the water used to be. Yeah. All right. In all respect to the mighty Hudson, I'm going to converse about the mighty Delaware.